Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, c'est Juliette Katz, bienvenue dans le podcast. Le podcast, c'est votre espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash, sauf qu'aujourd'hui, je m'invite moi-même. Donc finalement, je suis seule. Je suis seule au monde. Non, on va pas avoir cette chanson en tête. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. J'avais envie de parler aujourd'hui de la peur et de ma peur qui m'handicape depuis un peu toujours. Bon, je sais pas par où, je sais pas comment je vais faire cet épisode parce que j'ai rien préparé. À chaque fois que je suis seule, je prépare pas les trucs. Je voulais vous parler de ça parce que je me rends compte que ça m'handicape de plus en plus dans ma vie. Je pense qu'il faudrait revenir un peu à la base du truc, où quand j'étais plus jeune, un peu enfant, j'avais peur de rien, comme beaucoup d'enfants. Hein. On est naïf, on est un peu insouciant, innocent, etc. Et je pense que j'ai développé une peur d'avoir mal, une peur de tomber, une peur d'être mal aimé, de rejeter. Je sais pas, je dirais au milieu de la primaire, à partir de 7 ans, un truc comme ça, peut-être un peu avant, un peu après. Et j'ai des souvenirs, en fait, qui sont assez marquants, où mon père, pour lui, c'était une notion de faiblesse, un peu, d'avoir peur. Je me souviens, une fois, j'étais au ski avec mon père, et j'étais vraiment gamine, hein, j'avais genre 6-7 ans, et je tombe, et je pleure, mais genre je pleure, genre « Papa, viens m'aider !» Et en fait, il s'est vénère de ouf, et il est venu, et ça l'a mis en colère. Et c'est vraiment un souvenir assez marquant, et je sais que maintenant, quand je parle de peur, j'ai peur de prendre le scooter, de rouler trop vite, j'ai peur de l'avion, c'est un truc qui l'énerve vachement. Donc je pense avoir grandi dans un truc où mon père déteste la notion de la peur, parce que pour lui, c'est une forme de non-courage, quoi, de faiblesse. Et pour ma mère, elle a vachement peur. Ma mère, elle a beaucoup, beaucoup de peur ancrée en elle. Donc je pense que j'ai dû prendre ça d'elle, certainement. Plus les miennes qui se sont fait seules, quoi. Donc pour mon père, voilà, c'était un truc très difficile. Enfin, très difficile, on va se calmer, mais un truc où ça l'énervait que j'ai peur. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça s'est vachement accentué. Et je crois que les peurs de ma mère m'ont fait peur. Les peurs de on n'a pas d'argent, les peurs de mourir, les peurs de plein de trucs, parfois de trucs qui n'ont pas de sens non plus. Donc j'ai un peu grandi, je pense, aussi dans l'adolescence avec un truc de « fais attention Juliette », un peu un truc de « fais gaffe, prends pas le métro trop tard, fais attention quand tu traverses ». En même temps, c'est normal, hein, mais je pense que je me suis construite, ouais, avec les peurs de ma mère, plus les miennes, plus mon père qui refuse d'avoir peur, mais qui a plein de peurs évidemment, sinon c'est pas drôle. Et en fait, j'essaie de réfléchir à quand est-ce que ça a commencé à me poser problème, en fait, d'avoir peur. En fait, il y a tellement de peurs qui sont arrivées, mais des trucs pas rationnels, et puis des peurs de plein de trucs différents, genre j'ai peur de pas plaire, j'ai peur de pas être assez bien pour l'autre, j'ai peur... alors il y a la peur, moi, de la mort qui est présente depuis toujours. Quand j'étais ado, c'était pas tant la peur de mourir, mais c'était la peur de pas plaire, de pas être aimé, de pas être accepté, de pas être validé. Donc il y avait beaucoup de comparaisons avec les autres femmes. J'avais vachement peur de pas plaire aux hommes parce que j'étais déjà un peu ronde, j'étais pas la meuf la plus canon, donc j'avais peur. Alors c'était une autre forme de peur, hein, mais j'avais peur de pas plaire, de pas être assez, en fait. Et puis il y avait aussi ce truc où j'avais je crois que j'avais peur de pas être acceptée, mais pour tout le monde en fait, je recherchais à être avec les meufs populaires du collège ou du lycée. J'avais envie d'être aimée, donc je me créais un peu des personnages. Je me souviens quand j'étais au collège, il y avait un peu l'époque chalala. Je sais pas si ça vous parle ce truc, les chalala. Si vous êtes de ma génération, les chalala, c'est les feuges, c'est les juifs un peu branchouilles. C'est ça, hein, les chalala, hein, qui s'habillent un peu chez Diesel et Von Dutch. C'était un peu la mode à l'époque. Et moi, j'avais trop envie d'être un peu dans leur groupe. Bon, certes, parce que je suis feuge, mais c'est juste, je les nommais, je les voyais un peu comme des gens un peu « Waouh, putain, les beaux gosses !» Mais pas genre « Ils sont beaux », mais ils sont populaires. Donc, bah, je me suis mis une magaine David, une étoile de David au cou, mais... Alors que je suis juive, mais ni pratiquante ni croyante, mais juste parce que j'avais envie d'être aimée, d'être acceptée, qu'ils disent « Ah, tu fais partie de la commu, vas-y, viens !» Et en fait, ça n'a jamais vraiment arrivé. Donc j'y allais un peu, mais genre, ça fonctionnait pas. Et j'allais toujours un peu dans des groupes comme ça. J'ai été avec les anarchistes aussi. J'ai été vachement avec les anarchistes, avec les gens un peu skateurs aussi. Donc je m'habillais en Carhartt et je ne faisais pas de skate, vraiment, genre. Je sais pas faire de skate. Et puis, je voulais être acceptée par les gens, voilà, les anarchistes qui écoutaient du Slipknot et du Marilyn Manson. Donc, bah, je faisais genre, j'en écoutais. Et donc, je mettais sur mon ISPAC le A de anarchiste avec l'étoile de Satan. Sauf que, bah, quand je rentrais à la maison, j'écoutais du Laurie. Donc, bon, bah, voilà, pas de sens. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, je pense que j'avais vraiment très envie d'être acceptée et validée par les autres. Donc, j'arrivais à me transformer et à être très malléable, en fait, pour être aimée. Mais je pense que les gens, je sais pas s'ils ressentaient ce truc-là, mais il y avait un truc où ça se voyait que j'étais pas tout à fait naturelle. Je me souviens une fois, bon, ça sort un peu du truc de la peur, mais quand même, c'est un peu en lien. Une fois, j'étais au collège et j'ai voulu me maquiller. Pour faire un peu comme les grands, et j'étais en sixième, et je suis arrivée, putain, Miss Kitten, franchement, ça me touche maintenant avec le recul. Je m'étais maquillée, et j'avais mis du rose à joues, quoi, du blush, sauf que vraiment, j'avais deux ronds rouges, j'avais mis du crayon noir, mais très mal et tout, et je me souviens qu'il y a une lycéenne qui est venue mettre un peu de salive sur son doigt pour m'enlever un peu le blush, parce que je faisais un peu de la peine et tout. Putain, c'est mignon, hein. C'est mignon en vrai. Mais voilà, je pense que j'avais vraiment envie d'être acceptée parce que j'avais peur d'être mal aimée, d'être rejetée et tout. Et je sais pas s'il y a eu un moment où j'ai pris conscience que la peur était très présente dans ma vie. Je crois pas qu'il y ait eu un moment. Parce que j'ai eu des accidents de scout, tout ça et tout. Mais la notion de peur de mourir, elle est venue assez tardivement. Là, je vais avoir 35 ans. Et bah, surtout depuis que je suis devenue maman, là, ça c'est l'enfer, quoi. Dès que mon fils est malade, je pense à la mort, mais directement, quoi. Même quand il était tout petit, je vous donne des exemples pour poser un peu le contexte, mais quand il était bébé, qu'il mangeait pas qu'il mangeait pas comme il fallait, on va dire, j'avais peur qu'il manque de nutriments, donc j'avais peur qu'il meure. Quand il dormait pas ce qu'il fallait, entre guillemets, j'avais peur qu'il meure de fatigue. C'est ridicule avec le recul, mais j'avais vraiment ces peurs-là. Moi, quand il s'agit de ma santé, j'ai des peurs terribles. Je sais pas si vous me suivez sur YouTube, mais moi, j'ai des problèmes de tête, de maux de tête depuis longtemps. Et en septembre dernier, je suis allée aux urgences et j'ai dû faire un IRM. Et un IRM, c'est en place dans une machine, bon, y a rien de particulier, quoi. C'est un peu anxiogène. Mais je suis rentrée dans une parano... énorme, et je me suis dit, mais en fait, ça y est, je deviens une expérience, ils vont faire des expériences sur mes yeux, ça y est. En fait, ça m'a fait penser à la Shoah, c'est ça en fait ce que j'avais dit un peu sur YouTube, c'est que j'avais l'impression de devenir un objet d'expérience, quoi, et que du coup, on va me garder, on va me tuer, on va faire des expériences avec mes yeux, et ça m'avait fait penser à la Shoah. Je me souviens que j'en avais parlé avec ma psy, parce qu'à la Shoah, il y avait ce truc-là, hein, on faisait des expériences sur les femmes, les enfants... Et ça m'a popé comme ça, un peu trop bizarre. C'est trop bizarre, mais c'est peut-être parce que je suis allée aussi à Auschwitz et Birkenau. Bref, peut-être qu'il y a des trucs qui sont ancrés en moi. Comment on appelle ça? Des trucs transgénérationnels, les mémoires transgénérationnelles. Je pense qu'il y a un truc comme ça qui m'anime. Oui, pas dans le bon sens, quoi. Mais il y a un peu ce truc-là. Bref, pour revenir aux peurs, la peur de la mort, c'est un truc qui m'effraie particulièrement. Parce qu'en fait, j'ai peur... C'est pas très joyeux comme épisode, hein. On n'est pas sur un épisode Pompélope où on parle de skincare et de produits de beauté. Mais en fait, j'ai très peur d'être malade. J'ai très peur d'être malade, d'avoir une maladie qui dégénère et que je souffre et que je ne puisse rien faire et que je sois pas maître de moi pour décider de mourir comme en Belgique et plein d'autres pays où on peut être euthanasié. D'ailleurs, je trouve ça fou qu'on ne puisse pas être euthanasié en France. Bon, c'est un autre sujet, mais je trouve ça fou qu'on ne puisse pas décider de notre vie ou de notre mort comme ça. Mais voilà, j'ai hyper peur en fait d'avoir mal, d'avoir un handicap qui fait que du coup je sois complètement dépendante de mon conjoint ou d'infirmière, de finir comme un légume. Ça me fait flipper de ouf. Et en même temps, je fais rien pour ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que si j'avais vraiment peur de ça, bah je pourrais manger extrêmement bien, avoir une vie très saine, donner des bonnes choses à mon corps, pour essayer justement de ne pas glisser vers le terrain de la maladie. Et je ne fais pas ça, quoi. Je me fais kiffer dans la bouffe parce que bah, je ne suis pas dans la peur constante. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, hein, mais voilà, je ne sais pas. J'ai un peu une peur. J'ai très peur tout le temps. Mon mec, il a eu mal. Alors, il n'avait pas mal au cœur, mais en fait, il disait qu'il avait mal au cœur pendant un moment. C'était dans cette zone-là. Et un jour, ça remonte à il y a quelques mois maintenant, il a appelé les urgences parce qu'il avait mal, quoi. Et donc, il avait peur de faire un arrêt, un truc et tout. Et la parano s'est emparée de moi à tel point, bon, c'est très intime, mais c'est pas grave. Quand il m'a raconté ça, mon cœur s'est emballé. J'ai dû aller aux toilettes, genre me vider parce que c'est genre. Et j'ai tout de suite pensé au pire. J'ai tout de suite pensé au pire où je me suis dit, c'est la dernière fois que je le vois, il va pas revenir, il va mourir, on va lui découvrir une maladie incurable. Et c'est comme ça pour tout. Là, mon fils est malade, en fait, je pense que c'est une grippe. Et en fait, je pense au pire. Je me dis, en fait, il a une maladie, on n'arrive pas à savoir ce qu'il a, il faut qu'il fasse des radios. Je pars dans des flips énormes. Alors, ma mère, en tant qu'ancienne bonne psy, me disait beaucoup et que je jouissais de mon symptôme. Je pense que c'est quand même très déplacé de dire ça, mais en même temps, je pense qu'il y a une vérité. Je pense qu'il y a, je prends une forme de plaisir là-dedans. Mais c'est hyper inconscient. Hein. Pas du tout conscient, mais il y a une forme de plaisir. C'est pas du vrai plaisir, hein, mais d'un truc de je pars dans des parano. Je sais pas si vous êtes comme ça, les gens qui m'écoutent et les gens qui sont dans le studio. Si vous êtes comme ça, à psychoter sur des trucs. Et voilà, donc en fait, la peur m'handicape parce que il y a plein de trucs que j'ose pas faire à cause de ça. Je pense que j'ai peur de briller. Il y a aussi ce truc qu'on parle... je sais pas si ça vous parle, ce truc de la peur de réussir. De réussir dans un domaine. Puis après, bon, la notion de réussite, c'est la notion de l'échec, c'est aussi un truc intéressant à les questionner, mais de réussir dans son domaine professionnel, ça peut faire flipper, parce que d'un coup, on réussit, donc on s'autorise, en fait. On s'autorise à réussir, on s'autorise à briller, donc ça veut dire qu'on peut le faire, on est capable de ça. Et ça peut être flippant pour certains, certaines. Moi, j'ai pas... Je peux avoir ça à un endroit, mais moi, j'ai peur de au global, au-delà de la peur de la mort, parce que bon, il y a ce truc-là qui est présent, j'ai plus tant peur maintenant de plaire ou de pas plaire aux gens. Comment j'ai réussi? Parce que je sais que vous allez me demander, je crois qu'il s'est rien passé, je crois juste que j'ai vécu, en fait, et que j'ai vécu des trucs durs, et que maintenant, j'ai moins besoin du regard de l'autre, j'en ai besoin comme tout le monde, mais j'ai moins besoin de plaire ou de pas plaire, j'ai moins peur d'être aimé ou de pas être aimé. Parce que je crois qu'en fait, j'ai des gens que j'aime autour de moi et qui m'aiment, et que j'ai pas besoin de plus, de ce truc de « je veux que tout le monde m'aime » et tout, j'ai plus trop ce truc-là. Mais je crois qu'il y a une peur de me découvrir. Je crois qu'il y a vraiment ce truc-là qui est présent, et pourtant, je travaille en psy depuis des années, hein, mais j'ai peur de lâcher prise, par exemple. J'ai un besoin de contrôle énorme sur 12 milliards de trucs, parce que j'ai peur de lâcher, de me découvrir, de me laisser emporter par moi, de m'abandonner, mais pas de m'abandonner, de me quitter, mais de m'abandonner dans le bon sens du terme, quoi. Ça me fait peur. Par exemple, je pense que j'ai peur de mincir aussi, parce que je pense que j'ai peur de me découvrir autrement que comme ça, parce que c'est ma carapace et mon masque depuis 12 milliards d'années, que j'ai déjà été plus grosse, plus mince, hein, mais de... J'en avais parlé une fois avec ma psy où je lui disais qu'en fait, moi, je me suis jamais vue mince. Enfin, j'ai déjà été bien plus mince que maintenant. Mais j'ai peur d'être comme les autres. Il y a un peu ce truc-là. Mais c'est pas conscient, encore une fois. Je me dis pas, je vais manger plus comme ça, je vais grossir comme ça, je vais pas être dans la norme, non, parce que c'est pas un désir. Et je me dis pas, je veux pas mincir parce que je veux pas être comme tout le monde. Je ne pense pas comme ça non plus. Mais il y a un truc inconscient qui se passe à ce niveau-là. Ouais, je pense que j'ai peur de mincir et d'être... d'avoir réussi quelque chose, en fait. Je pense qu'il y a, un peu... Mais c'est pas clair encore, je le travaille encore, mais il y a un peu une notion pour moi la minceur, par exemple. C'est flou, hein, ce que je vous dis, hein, mais bon, c'est pas préparé, mais la minceur, par exemple, c'est toujours un truc que j'ai admiré, les gens minces, enfin, les meufs, plutôt. Les meufs que j'estime comme bien foutues, alors qu'il peut y avoir des meufs grosses bien foutues, hein. Mais que pour moi, la minceur, c'est une forme de réussite. C'est affreux, hein. C'est terrible de penser comme ça. Donc ça veut dire que moi, je me considère comme un échec. Yes, super, allez. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à m'autoriser à être plus mince.
Podcast.
En fait, voilà, le truc par rapport au poids, en fait, depuis que je suis gamine, on n'arrête pas de me dire que j'ai un beau visage. Depuis que je suis petite, on me dit ça. On me dit pas que je suis belle. On me dit que je suis un beau visage, que je suis très belle du visage, et on n'a jamais parlé de mon corps. On m'a vachement coupée de mon corps depuis gamine, hein, vraiment, même à la primaire, quoi. C'était comme ça. Donc on m'a coupée du corps. Et je pense qu'il y a un truc, encore une fois, inconscient, que j'aimerais qu'on me dise enfin, mais je suis pas dans cette quête, je suis plus là-dedans. Je suis plus du tout dans ce truc-là, mais j'aimerais peut-être inconsciemment qu'on me dise que je suis belle dans mon entièreté, dans mon intégralité, quoi. Pourtant, on me le dit, hein, mais je pense que j'associe vachement la minceur à la beauté. Et ça me fait chier de penser comme ça parce que... Mais par rapport à moi, hein, c'est pas par rapport aux autres, évidemment. Je pense que je me trouverais vraiment belle le jour où je serais mince, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai peur de ça aussi. Je pense que j'ai un peu peur de me trouver belle, donc de briller. C'est pour ça que je reviens un peu à ce truc-là de réussite. Je parle uniquement de moi. Hein. Faut pas croire que je parle de la minceur pour les autres, de la beauté pour là. Je parle vraiment que de moi. Mais je crois que ça m'effraie. Ça m'effraie de enfin être mince, de enfin être comme tout le monde. Et donc d'être un petit peu perdu au milieu des autres aussi. Donc c'est pour ça aussi que je reste certainement grosse, quoi. Parce que c'est ma manière à moi de me démarquer. Mais bon. Démarquer de qui, pourquoi, je suis plus dans cette réflexion-là, je crois pas. Hein. Mais ouais, il y a une peur d'exister. Un jour, hein, j'avais fait du coaching en dev perso et le mec m'avait dit j'étais plus ou moins pareil que maintenant en termes de poids. Et il m'avait dit Juliette, t'es pas grosse. Hein. Je dis en fait si. Il dit non, c'est une carapace. Tu crois que tu l'es. Tu crois que tu l'es, mais t'es pas ça. Et tu veux du coup te faire croire que tu l'es, donc tu continues de prendre du poids pour faire croire. Et je pense qu'il avait touché un truc assez juste. Mais bon, voilà, j'ai pas été plus loin que ça. Mais il y a cette peur de... Ouais, je crois que j'ai peur de me rencontrer un jour. C'est pour ça que quand je parle de l'abandon, de lâcher prise, d'arrêter d'avoir des carapaces, des masques, c'est juste... arrête d'être dans un truc négatif. Arrête de te donner du bon et de te fouetter. Parce que moi, je sais que mon rapport à la bouffe, même si j'ai plus trop de TCA et tout, enfin, je pense pas, hein. Mais que je me flagelle, en fait, avec la nourriture. Il y a un truc où je me flagelle, même si je prends du plaisir à manger comme je mange, il y a un truc où je me dis, je mérite que ça, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est une peur d'être, de vivre, de voilà. Bon, je sais pas tout, hein, j'ai pas les réponses à tout. Et puis, je pense que j'ai peur d'échouer aussi à des endroits. J'ai fait un épisode sur la flemme, mais je pense qu'il y a des trucs qui se rejoignent en fait dans la flemme. Un jour, on m'avait proposé de jouer au théâtre et de faire un premier rôle pendant genre 5 mois. Et j'ai refusé parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de pas bien faire, d'avoir des fous rires, de me tromper sur scène, de pas être assez bonne actrice. Et aussi parce que je disais tout le temps « Ouais, c'est la flemme, j'ai la flemme d'écrire un texte. » Donc je me cache aussi derrière la flemme pour ne pas faire parce que j'ai peur, je pense, de briller, de réussir, et j'ai peur de me planter aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est handicapant, parce qu'il y a plein de trucs que j'ose pas faire parce que j'ai peur. Et pourtant, c'est des peurs qui sont pas graves. Hein. Enfin, si tu te plantes sur scène et que tu oublies ton texte, c'est pas grave, c'est chiant, c'est pas forcément la honte, mais c'est relou, quoi. Mais de là à ne pas faire parce que j'ai peur, bah c'est contraignant. Donc c'est pour ça que je dis que ça m'handicape vraiment. Je pense à un truc, bon, c'est vraiment, pardon, c'est flou de ouf. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de plongée avec mon père. Parce que c'était son désir et que voilà, c'était une manière pour lui de se dépasser, de découvrir des choses. Et moi, je le faisais à chaque fois pour lui faire plaisir, parce que j'avais peur à chaque fois, mais j'y allais et puis j'étais contente. Et la dernière fois que j'ai failli faire de la plongée, et ben en fait, j'ai fait une crise de panique et de parano énorme, parce que la peur s'est emparée de moi. On s'est retrouvés dans l'eau et le détendeur, c'est ça qu'on dit, de secours de mon père ne fonctionnait pas. Et sa bouteille d'oxygène, elle fuyait un peu, mais c'était pas dramatique, il aurait complètement pu aller plonger. Et en fait, je me suis dit, mais là, le moniteur qui est avec nous, il se rend pas compte. Et moi, mon gilet, il se dégonflait petit à petit. Et tout ça a fait que je me suis dit, en fait, si on y va, on va mourir. On va rester au fond de l'océan et on va mourir. Et je me souviens que le moniteur, un jour, à ce moment-là, il m'a pris les bras et il m'a regardé droit dans les yeux en me disant, on va y aller, Juliette, c'est bon, on y va. Et je sais pas, il m'a regardé droit dans les yeux et je me suis dit, en fait, il veut me tuer. En fait, là, vraiment, il m'a regardé en me disant, ce qu'il me dit de Juliette, on va y aller, c'était Juliette, on va au fond, je vais te laisser, tu vas mourir. Et du coup, j'ai fait une crise de panique et j'ai pas pu y aller. Et même, j'étais dans un truc avec mon père qui était à côté de moi dans l'eau. Et je disais, mais papa, non, non, mais c'est pas possible, attends, mais tu te rends pas compte. Et en fait, je croyais que le mec allait aussi le tuer. Et mon père s'est vénère un petit peu. Et il a quand même été au fond de l'eau. Et moi, je suis remontée, je tremblais. Ma mère, elle était là. Je tremblais parce que je m'étais dit, en fait, qu'il voulait me tuer, le mec, quoi. Donc, j'avais peur de mourir, j'avais peur. C'est ça, en fait, c'est que moi, très vite, je pars dans des parano terrible, terrible, terrible. Donc, ça m'handicape. Donc, c'était la dernière fois que j'ai, du coup, pas plongé, quoi. Et j'aimerais bien le refaire un jour pour me dire que je peux dépasser ça. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire pour me dépasser, en fait, et me dire que je sais le faire, que je suis capable. Je crois que le courage, en tout cas, c'est vraiment d'affronter ses peurs, quoi. Je crois que c'est vraiment ça, la notion de courage, et d'affronter ses peurs, d'être audacieux, de faire des trucs. Mais des peurs, ça peut être plein de types de peurs, hein. Il n'y a pas une meilleure peur ou une moins bonne peur. Et c'est ce que j'essaie de faire sur certains trucs. J'aimerais bien faire un spectacle et monter sur scène et faire un truc. Mais j'ai très peur. J'ai très peur des trous, j'ai peur de me planter. J'ai peur d'avoir... qu'on rigole pas, de vivre un bide et tout. Donc parfois je me dis, oh vas-y, laisse tomber. Donc j'ai plein de peurs, mais j'essaye de les traverser, quoi. Et je sais que par rapport à ma santé aussi... Encore une fois, c'est flou, hein, désolé, hein. Mais là, je dois refaire un IRM bientôt. Et ça me fait peur, parce que je me dis, ils vont découvrir des choses, des maladies incurables et tout, mais vu que maintenant, j'ai déjà expérimenté ce truc-là, de faire un IRM, de savoir ce que c'est, et ben, je peux un peu plus le bosser et me dire que ça va aller, et me rassurer comme ça. Voilà, je pense que j'ai toujours peur que mon mec me trompe. Il y a toujours ce truc-là qui est là. J'ai peur qu'il me quitte et qu'il rencontre une meuf avec qui ça matche mieux, qu'il soit plus mince que moi. Je suis honnête, hein, franchement, j'ai toujours peur de ça. D'ailleurs, la nana avec qui il avait couché était mince. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, il a couché avec elle parce qu'elle est mince. Donc, c'est des peurs, en fait, des peurs de ne pas être acceptée et aimée comme je suis. Et j'ai toujours ces peurs-là, j'ai les peurs... Enfin, j'ai 12 milliards de peurs, j'ai 12 milliards de peurs. Et en même temps, il y a des trucs où je suis très détachée, genre l'argent. J'ai plus peur de manquer. J'avais peur de manquer avant, mais maintenant que, depuis que je suis influenceuse et que je gagne bien ma vie, on va pas se mentir, hein, j'ai moins peur de ça, mais j'ai peur de mal gérer, par contre, l'argent. Pourtant, je suis pas quelqu'un de dépensier, quoi, mais... Enfin, je dis ça, je viens de faire du shopping ce matin. Mais quand même, je sais pas, ouais. Podcast. Il n'y a pas vraiment de conclusion à cet épisode, comme à chaque épisode solo, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'arrive maintenant un petit peu à me rendre compte des peurs irrationnelles et des peurs rationnelles, et qu'il y a un peu un truc interne qui s'est fait d'une jauge de la peur. Il y a la peur énorme qui est la mort, et puis il y a la peur de manger toute seule dans un restaurant, parce que j'ai peur qu'on me juge, par exemple, un truc tout con. Et donc il y a plein de trucs que j'essaye doucement, mais j'y vais, franchement, j'y vais tranquille, hein, je me fais pas une to-do list, hein, mais il y a des trucs que j'ose faire petit à petit. D'aller boire des cafés seul, par exemple, d'aller au cinéma toute seule, je me dis, oh vas-y, c'est la honte, j'ai peur qu'on me reconnaisse et qu'on dise, oh la Juliette, elle a pas d'amis... Et en fait, c'est pas ça, c'est pas une histoire d'amis, pas d'amis, c'est juste qu'il y a des gens qui adorent être seuls et puis d'autres moins. Mais moi, j'ai peur d'être jugée, voilà, qu'on me dise « Bah, Juju, elle est nulle, c'est une loseuse. » Et petit à petit, bah, j'apprends à m'en détacher un petit peu. Enfin, pas à m'en détacher, j'apprends à me forcer, en fait, à être seule. Bah voilà, ce matin, j'ai fait du shopping toute seule. je suis allée prendre un café, j'étais à deux doigts, si j'étais pas pressée, de me poser dans un café seule. Parce que je le fais petit à petit, doucement, et en fait c'est génial. C'est trop bien de boire des cafés seuls. Alors j'ai du mal à être au resto toute seule, par contre, ça c'est un truc qui me gêne, je sais pas pourquoi. J'en parlais avec deux copines, je sais plus quand, où je leur disais, mais vous, parfois, vous allez au cinéma ou au resto toute seule? Elles me disaient, mais grave, mais c'est génial, même de voyager seule. Et je crois que c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Mais je crois que ça me fait peur, parce que j'ai peur de me rencontrer aussi, certainement. Hein. Et puis les autres choses que j'essaye de mettre en place, c'est surtout d'en prendre conscience. Et puis, je travaille ça aussi avec ma psy, quoi. Je travaille ma peur de mourir. On a commencé à parler de la mort depuis un petit temps. En fait, moi, ce que j'aime bien avec ma psy, c'est qu'il n'y a pas de fin positif à chaque séance. Il n'y a pas de conseils, il n'y a pas des choses qui se règlent. Mais en fait, à force de déconstruire, je crois, il y a un truc qui s'apaise. Et donc, bon, c'est pas du tout apaisé, hein, la mort, vraiment pas. Je crois que je suis en plein dedans, dans cette flip constante, quoi. Mais peut-être, effectivement, d'en prendre conscience, d'arriver à se rassurer. Quand j'avais fait mon IRM, donc j'étais flippée, et à un moment, je me suis concentrée sur la respiration. Donc j'inspirais pendant 4 secondes, et j'expirais pendant 6 secondes, et j'avais aussi de la musique dans le casque. Et en fait, au lieu de partir tout de suite dans mes angoisses de « je vais mourir, ça y est, on fait de moi une expérience, et on va faire des trucs sur mes yeux et mon cerveau », je me suis concentrée sur la musique, et j'ai fait de la respiration. Déjà, je tapais sur mes seins le tempo, et puis je me concentrais sur la respiration. Et puis quand on fait un IRM, il y a vachement de bruit, c'est des marteaux piqueurs, enfin c'est insupportable. Et ben en fait, je me disais, ok, en fait là je suis un peu dans une petite piscine, et il y a des travaux autour de moi pour construire plein de trucs géniaux. Je me suis inventé des histoires, quoi, parce que je suis forte là pour ça. Et vu que je suis forte pour être parano, bah autant être parano aussi dans le bon sens. Et j'ai réussi un peu à canaliser. Et puis je crois aussi que la chose que j'arrive maintenant à faire, ouais, c'est prendre conscience, c'est d'en parler, et puis c'est de vous en parler aussi, parce qu'il y a un truc pour moi aussi qui est important, c'est que je peux prendre conscience de plein de choses, mais de là en parler aux autres, à vous, à ma psy, à mes potes, c'est encore un autre gap. Et là, de vous dire tout à l'heure, je crois que j'ai peur de mincir, ça c'est hyper nouveau de le dire aux autres, parce que c'est en moi depuis longtemps, mais je n'ose pas le formuler, parce que j'ai peur qu'on me juge, parce que j'ai peur... de je ne sais quoi, c'est d'en parler, ouais. Je pense que d'en parler, ça calme un peu. Et puis, oui, c'est peut-être faire des petits challenges, quoi. Par exemple, si je vous dis vraiment des conneries, mais si vous avez envie de poser nu, parce que ça, on me l'a déjà dit plein de fois, j'ai trop envie de poser nu, mais j'ose pas, ça me fait peur de me trouver moche ou de me trouver belle. Et ben en fait, mettez-vous des petits challenges. Peut-être posez pas nu tout de suite, mais regardez-vous toute nue dans le miroir. Je sais pas, ça peut être des exemples à la con. Prenez-vous vous-même en photo nue, mais sans être dans une pose sexy. Mais voilà, faire des petits trucs qui peuvent vous aider à vous reconnecter, en fait, à vous. Et puis encore une fois, moi je trouve que c'est assez humain d'avoir peur. Je connais personne qui vit sans peur. Hein. Je crois qu'on a tous peur de certains trucs. Bref. Je pense que c'est la fin de cet épisode très joyeux. Vraiment, on était sur un épisode hyper joyeux, hyper cocooning, très... je sais pas la fin de cette phrase, voilà, très sympa. Non, mais j'espère que ça vous a aidé, que ça, je sais pas, ça vous a éclairé sur des trucs, ou peut-être pas, hein, mais n'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux, d'échanger là-dessus. On se retrouve bientôt, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Et là, je peux dire, même studio, même micro, et quoi d'autre, et même... non, c'est tout. Bah voilà. Allez, bisous. Bye. Podcast. Podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.